Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de crise avec un S et sans S. Et on va s'intéresser un petit peu à ce qu'il y a là derrière toutes ces informations qu'on entend. On est en plein dans l'actualité avec la taxe Tobin qui revient au niveau de la Commission européenne, avec les mesures qu'on pourrait prendre pour sauver la Grèce, pour sauver l'Espagne, pour sauver l'euro. Alors pour parler de tout ça, j'ai invité Renato Pinto. Bonjour Renato.
Bonjour.
Qui est notre coordinateur régional pour le Brabant Wallon. Et qui, vu l'actualité, s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'un petit peu comprendre tout ça. Alors quel est le lien entre cette actualité qu'on entend et le travail de terrain avec les associations et dans la lutte contre la pauvreté?
Le lien, il est direct, puisque toutes ces affaires de crise engendrent de la pauvreté. Mmh. Et lutter contre la pauvreté, c'est surtout lutter contre ses causes. C'est vraiment une des missions de vivre ensemble. Donc, pour bien lutter contre ces causes, il convient de les analyser convenablement aussi.
Mmh. Et est-ce qu'on ressent les conséquences de cette crise sur le terrain, dans les associations? Est-ce que les gens sont interpellés, vous posent des questions?
Dans le Brabant Wallon, évidemment, on a tendance à dire que ça se sent moins. Mais concrètement, le problème des associations, c'est que justement, on pense qu'il n'y a pas de pauvreté, du coup... La crise ne touche personne, ça n'est pas le cas sur le terrain. Et très concrètement, ça défavorise vraiment et ça ne facilite vraiment pas le travail des associations.
Mmh. Alors pour mieux comprendre et pour nous aider à mieux comprendre cette problématique de la crise, vous avez écrit une analyse, nos éditeurs le savent peut-être, on publie 15 analyses chaque année sur notre site internet qui traitent de thématiques liées à la pauvreté, et vous vous êtes dit, je vais écrire une analyse là-dessus, à la fois pour y voir clair moi-même et puis pour essayer de faire un peu comprendre tout ça. C'est vrai que quand on écoute les informations, tout ça a l'air très très compliqué, c'est un peu comme une grosse pelote de laine pleine de et on ne sait pas toujours très bien par où commencer pour comprendre et pour expliquer. Alors, vous avez choisi de tirer le fil de la dette publique. Alors, pourquoi?
Simplement, comme vous l'avez dit, parce que c'est un thème d'actualité. On entend ce mot qui revient à toutes les sauces dans les médias, dans tous les médias d'ailleurs. J'ai voulu vraiment en savoir plus, d'abord pour moi-même comprendre un peu ce qu'il y avait là derrière. Et puis évidemment, je me suis rendu compte que c'est un enjeu global qui concerne tout le monde, qui concerne tout un chacun dans sa propre vie. Et si aujourd'hui on parle de crise, si on voit l'éclatement de violence dans certains pays, c'est aussi lié à ce phénomène. Et donc c'était intéressant de décortiquer cette question de la dette, de voir ce qu'il y a derrière et surtout de voir d'où ça part.
Parce que c'est vrai que quand on parle de dette, on pense peut-être plus vite à la dette du tiers-monde avec les plans d'ajustement structurel du FMI. La dette chez nous, on en parlait parce qu'il y a des exigences européennes de limiter la dette publique, mais ça n'a jamais vraiment été un danger pour nous. Et là, on se rend compte, le FMI intervient en Grèce comme il interviendrait dans un pays du Sud. D'où elle vient cette dette en fait? L'aggravation de cette dette surtout.
Oui, c'est surtout ça, parce que donc, la dette, comme vous le dites, ça ne date pas d'hier. Le point d'achoppement, je dirais, c'est la crise de 2008-2009, autour de ces années-là, parce que, on l'a vu, les États ont dû intervenir de manière assez énergique et assez drastique pour sauver les banques, comme on dit. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on voit les déficits et la dette qui augmentent de manière assez drastique. Les chiffres sont très nets. Donc, très clairement, c'est bien la crise financière qui a causé la crise économique et pas l'inverse, je crois utile de le repréciser.
Et donc c'est cette finance qui tourne un peu fou, qui n'est plus contrôlée par les États finalement. Et un des outils dont dispose l'État pour assumer ses missions, c'est la fiscalité, les impôts, les contributions, quelle que soit la façon dont on les appelle. Or, on constate quand même depuis un certain temps une tendance... à alléger la fiscalité sur les entreprises et à augmenter celle sur le travail. Pourquoi?
Pourquoi? Pour favoriser... l'argument, c'est qu'il faut favoriser l'investissement, mais dans les faits, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc, très concrètement, en fait, on favorise le capital au détriment des salariés.
Mmh. Les salariés qui sont plus faciles à taxer aussi parce qu'ils bougent moins avec les capitaux.
Ils bougent moins et j'ai tendance à dire que de manière générale, on est mal informé ou désinformé. C'est-à-dire qu'on fait passer certains messages et que finalement, à côté de ça, on passe des vrais à côté des vrais enjeux. C'est particulièrement le cas dans beaucoup de pays européens actuellement.
Mmh. Et en plus des régimes fiscaux qui sont favorables au capital, on constate quand même un certain nombre de fraudes, souvent à grande échelle. Là, je ne parle pas de la petite fraude fiscale individuelle.
Oui, on a souvent tendance à accuser les chômeurs ou d'autres allocataires sociaux. On dit qu'ils volent l'argent finalement, qu'on leur dit qu'ils se sont des profiteurs. Et bon voilà, c'est clair qu'il y a un petit pourcentage de personnes qui, quelque part, profitent du système. Mais à côté de ça, si on analyse les chiffres, on se rend compte que c'est totalement marginal. Et si on les compare aux chiffres de l'évasion fiscale, qui sont dans certains pays 50 fois plus importants que ça, que la fraude aux allocations sociales ou tout simplement la fraude fiscale massive, et ne nous leurrons pas, quand on parle de fraude fiscale, il s'agit bien de grosses fortunes, pas simplement du petit épargnant qui oublie de déclarer un revenu complémentaire.
Mmh. Alors bon, essayons maintenant de comprendre un tout petit peu mieux ce qui se cache là derrière, comment tout ça fonctionne. Ce qui est un peu déroutant quand on écoute les informations, c'est qu'on a l'impression que les États en fait, n'ont plus rien à dire. On se demande un peu qui pilote l'avion. Quoi. Alors, on entend parler aussi du grand pouvoir qu'ont les agences de notation. Alors, qui commande maintenant l'économie internationale?
Très concrètement, c'est sur les marchés financiers que tout ça se passe. Qui dit marché financier dit aussi toute une série d'acteurs, et c'est justement la complexité et la multiplicité des acteurs qui fait que c'est si compliqué de s'y retrouver. Mais de manière générale, ce sont les institutions financières qui influencent en tout cas très, très fortement les grandes décisions. Je ne voudrais pas dire que les États n'ont pas de responsabilité, parce que ce qui fait un État, c'est aussi sa souveraineté. Et qui dit État souverain dit aussi que l'État peut encore décider d'aller dans un sens ou dans un autre. C'est vrai qu'actuellement, la tendance est très nettement à rassurer les marchés, rassurer les investisseurs. Encore une fois, ce sont des mots qu'on entend tout le temps, sans bien savoir que là derrière, mais finalement, ce sont les citoyens qui finissent par devoir se serrer la ceinture.
Mmh. On va faire une première pause musicale en écoutant Romain Didier qui chante une chanson d'Alain Leprest. Alain Leprest, qui est un chanteur trop méconnu, qui s'est suicidé au mois d'août, donc c'est une façon de lui rendre hommage. Ça s'appelle « Où vont les chevaux quand ils dorment ?»
RCF.
RCF.
Branchez-vous sur l'essentiel.
L'essentiel.
Où vont les chevaux quand ils dorment? Et dans les nuits de Bilbao, combien la lune au bout de sa corne fait-elle danser de torero? Est-ce que le soleil est humide? Est-ce que la lumière est un son? Dis-nous, maçon des pyramides, sage femme des pharaons, dis-nous l'homme, bête de somme, où vont les chevaux quand ils dorment? Où vont les chevaux quand ils dorment? Qui a dit le vent et sa vent? Pourquoi ma chanson je l'adore? Pourquoi ta bouche tu la vends? Quelle heure as-tu à ton miroir? Quel âge t'as quand tu souris? Combien de kilos d'herbe noire sont arrivés à Miami? Quand le soir nous prête sa gomme, où vont les chevaux quand ils dorment? Où vont les chevaux quand ils dorment? Un regard de quelle couleur c'est peint? Un nuage, ça quelle forme? Et ton cœur contient combien? Quel coup ça a l'odeur du fric? Quel goût ça a l'odeur de l'eau? Est-ce qu'on peut tout mettre en musique? Celui là-bas ou un salaud? Il fait moins 10 degrés à Rome. Où vont les chevaux quand ils dorment? Où finit le cri des baleines? Où recommencera le nôtre? Qui tiendra nos voix en haleine? Et qui paiera content les fautes? dort, où vont les chevaux? Un cheval, c'est insaisissable. La terre, ça vaut ce que ça vaut. Sous ses sabots, y'a que du sable. Plus d'abonnés au téléphone. Où vont les chevaux quand ils dorment? Plus d'abonnés au téléphone. Où vont les chevaux quand ils dorment?
Voilà, c'était Romain Didier sur une chanson d'Alain Leprest. Revenons à nos moutons, c'est-à-dire les finances aujourd'hui avec Renato Pinto. On parlait des États qui ont l'air très soumis au marché financier. Rassurer les marchés, calmer les marchés, prendre des mesures qui plaisent au marché. On a vraiment l'impression que les États n'ont plus aucune marge de manœuvre. Est-ce que c'est vraiment le cas?
On pourrait dire que ce n'est plus vraiment le cas dans la mesure où ces États sont aussi influencés par tout ce qui est institutions internationales, y compris bien sûr tout ce qui est l'Union européenne, et que la marche à suivre pour l'instant va dans ce sens-là. Mm-hmm. Donc maintenant, l'Union européenne est faite d'États elle-même, et donc il est aussi possible qu'il y ait des décisions politiques qui soient prises dans un autre sens. Voilà, c'est clair que la majorité actuelle au niveau de l'Union européenne, a priori, ne va pas pencher dans un sens de moins d'austérité, mais on peut espérer qu'à plus ou moins court terme, ça devrait changer.
Mmh. On voit quand même que la Commission européenne propose des mesures de reprise de pouvoir sous la forme de cette fameuse taxe sur les transactions financières. On va quand même rappeler, non pas pour se lancer des fleurs, mais enfin que ça fait quand même 10 ans que les ONG, plus de 10 ans même depuis la dernière crise, on oublie parfois, mais il y a déjà eu une grosse crise en 97-98, la fameuse crise asiatique. Et à ce moment-là, Entraide et Fraternité et Vivre Ensemble avaient mis sur pied un réseau qui s'appelait Réseau d'action contre la spéculation financière, qui rassemblait une 50aine d'associations, d'ONG, de syndicats, de mouvements, et qui demandait notamment cette taxation des flux financiers. Alors à l'époque, nous étions tous des utopistes et de doux rêveurs, mais aujourd'hui, voilà, c'est sur la table de la Commission européenne. Le seul problème, c'est que l'argent n'ira pas nécessairement à l'aide au développement comme on le voulait, mais plutôt pour sauver l'Union européenne. Donc voilà, c'est un premier pas qu'il faudra suivre. Quoi qu'il en soit, on a vraiment l'impression qu'on ne peut plus se passer de ces agences de notation, de ce système financier. On nous a tellement convaincus que c'était le seul système possible qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je voudrais prendre par exemple justement l'exemple de la bourse. Pas mal de gens remettent même en question carrément son utilité et voire même son existence, le besoin de se référer systématiquement à la bourse. Alors c'est certain que c'est pas du jour au lendemain qu'on va changer tout ça, mais on peut en tout cas d'une certaine manière désacraliser ces institutions que sont la bourse, les marchés, et faire passer le message que finalement une bonne partie de l'économie réelle ne dépend plus de tout ça, ne dépend plus de ces marchés, ne dépend plus de la bourse.
C'est vrai, je vous interromps parce que c'est vrai qu'on entend tous les matins à la radio les cours de la bourse et ça nous est présenté comme la météo, comme quelque chose qui va influencer notre journée. Or, pour la plupart d'entre nous, c'est pas vraiment le cas. On ne nous donne pas le taux de chômage ou le taux de création d'emploi chaque jour, quoi. Donc c'est aussi quelque chose d'un peu de matraquage, je dirais, ces histoires de bourse.
Oui, de manière générale, les gens ne retiennent plus ces chiffres. Je vais prendre les chiffres de la faim dans le monde, c'est 1 milliard de personnes, mais voilà.
On ne le dit pas tous les jours.
On ne le dit pas tous les jours, c'est une chose, et même quand on le dit, finalement, ça passe comme quelque chose de presque... Enfin voilà, on est finalement habitué à entendre ces chiffres.
Ouais, ouais. Donc voilà, est-ce qu'on pourrait se passer tout ça en parler de la bourse? C'est vrai qu'on ne va pas la fermer du jour au lendemain, mais...
Oui, en tout cas, il faut vraiment remettre les pendules à l'heure par rapport à son rôle. La plupart des grosses entreprises, maintenant, ne passent pas par la bourse pour se financer. Elles passent par d'autres canaux, notamment par les banques, tout simplement. Et la plus grosse partie de l'emploi et de la production se fait dans les petites et moyennes entreprises. Or, la plupart de ces PME ne sont pas cotées. Mmh. Donc... Voilà.
La bourse, ça devient vraiment un lieu de spéculation, plus du tout un lieu...
La bourse est vraiment le lieu de la spéculation. Il y a des chiffres assez éloquents qui disent que voilà, les 70, voire 90% des flux de capitaux se font hors de l'économie réelle et donc concernent uniquement la spéculation. Donc, qui dit spéculation dit simplement anticiper les variations du marché, non pas pour promouvoir une entreprise ou une autre, mais simplement pour... engranger des bénéfices.
Oui, il n'y a plus de lien non plus entre la santé de l'économie et les bénéfices qu'on peut engranger sur les marchés. C'est pas parce que le marché va pas bien qu'on va pas faire des bénéfices sur. C'est pas parce que l'économie, pardon, ne va pas bien qu'on va pas faire des bénéfices sur les marchés financiers.
Non, tout à fait. Donc effectivement, on voit qu'au fil des ans, même en pleine crise, il continue à y avoir des bénéfices. Mais voilà, les retombées ne sont pas les mêmes pour tout le monde.
Oui, c'est ça. Donc il y en a qui continuent à accumuler pendant que les autres trinquent. Bon, les citoyens qui trinquent, c'est vrai que c'est un petit peu cette impression. On l'avait déjà dit au moment de la crise en 2008. On va le payer, ce sauvetage des banques. Et j'ai l'impression qu'on le paye maintenant, non ?
Oui, c'est tout à fait ça. Hein. Donc on n'est pas sorti de cette crise. Et le pire, c'est qu'en 2008, on a eu à un certain moment l'honnêteté de reconnaître que ça se plantait. Très concrètement, on disait, voilà, les États doivent intervenir, on parlait de Keynes, on remettait en cause le capitalisme. Mais voilà, finalement, on est maintenant en 2011, 3 ans plus tard, et on repose exactement les mêmes questions, et on se rend compte, et ce ne sont pas spécialement les ONG qui le disent, que voilà, la finance finalement continue d'agir de manière... incontrôlée, sans aucune bride, alors que voilà, c'est là qu'il faut agir, puisque c'est là que se trouve le vrai pouvoir.
Ouais. On va continuer cette conversation dans quelques minutes, après, Francis Cabrel, qui nous chante « Tout le monde y pense ».
RCF, branchez-vous sur l'essentiel.
Les hommes, les anges, les vautours, y a plus de distance. Personne qui ait les bras trop courts, tout le monde espère. Même à l'arrière des arrières-cours, tout le monde veut son billet retour. D'amour, 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 son éclat de chance. Celui qui vous brûle vous inonde, mais le ciel s'en balance. Puisqu'il n'y en a pas pour tout le monde, il y a des gens plein les urgences. Sous les lumières des abat-jours qui attendent leur billet retour. D'amour, 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 d'amour. Des pistes trempées d'alcool dans ces caves immenses, mes cheveux collés aux épaules s'envolent en silence et s'éparpillent au petit jour en cherchant des billets retour d'amour, 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 d'amour.
Voilà, c'était Francis Cabrel avec « Tout le monde y pense ». Tout le monde y pense, ben c'est vrai, on ne pense pas tous au cours de la bourse toute la journée. On pense aussi aux relations avec nos voisins, on pense aussi à être bien, on pense aussi à trouver un sens à sa vie. On se sent un peu perdu là dans ce monde. On a l'impression que plus personne ne contrôle les choses. Or, on peut quand même faire quelque chose, peut-être déjà au niveau individuel.
Oui, il y a des tas de signes encourageants dans la société contemporaine. Je prends un exemple tout simple, le concept de développement durable ou de manière générale d'écologie. Il y a 30 ans, les écologistes étaient tous des illuminés. Maintenant, voilà, on a compris qu'ils n'avaient pas tout à fait tort. Et on commence à comprendre aussi qu'il est temps de bouger. Pour faire bouger les grands décideurs, il faut aussi que la base bouge, il faut adapter ses comportements. Et là aussi il y a des signes encourageants quand on voit que le commerce équitable par exemple commence à se développer tout doucement. On voit aussi de plus en plus d'initiatives qui visent à ce que les citoyens puissent se rencontrer, que les gens puissent vivre ensemble justement, hein. Je prends aussi d'autres exemples, où les GAC par exemple, groupe d'achat commun, qui visent à ce que les gens justement se mettent ensemble encore une fois et puissent se procurer leur alimentation de manière plus durable. Voilà, tout ça ce sont des petits signes, c'est vrai, c'est pas grand chose, mais c'est encourageant et ça prouve qu'il y a une prise de conscience.
Ça peut citer l'épargne éthique aussi, qui se développe de plus en plus. Et tout ça, c'est vrai que ça a l'air petit, mais finalement, comme nous sommes tous des consommateurs, on influence un petit peu l'offre aussi, hein, en réclamant certaines choses. Alors bon, il y a l'action individuelle, mais ça ne suffira pas, il faut aussi passer à l'échelon supérieur, j'imagine. Que monde associatif aussi se bouge.
Oui, il y a pas mal d'initiatives qui existent. On parle beaucoup de pauvreté. Il y a justement un réseau wallon de lutte contre la pauvreté, un réseau belge aussi de lutte contre la pauvreté. Ces réseaux portent vraiment les revendications de plusieurs acteurs de terrain pour les porter auprès des décideurs et essayer d'influencer les choses.
Influencer les décisions politiques pour que ça n'aille pas que dans le sens de l'austérité, de coupure dans le social. Et on peut aussi parler, on en a déjà parlé, du réseau d'action contre la spéculation financière qui est devenu réseau pour la justice fiscale récemment et qui lui aussi a lancé des actions, notamment pour l'impôt sur la fortune. On parlait d'impôt sur les gros revenus tout à l'heure. Ce serait aussi quelque chose qui pourrait faire avancer le projet d'une société plus juste. Alors, et donc nous, en tant qu'association de lutte contre la pauvreté, Vivre Ensemble, en tant qu'association chrétienne, on est aussi invité donc à s'impliquer dans ces réseaux. Donc voilà, on va inviter les auditeurs qui seraient intéressés à lire votre analyse, qui est publiée sur notre site internet www.entraide.be. Je vous rassure, c'est pas du tout technique et incompréhensible. Renato a très bien écrit ça, c'est compréhensible par tout le monde. C'est une façon de s'informer et, comme dit un célèbre journal, s'informer, comprendre, c'est déjà agir. Donc voilà, rendez-vous sur notre site donc. Et puis du site, vous aurez aussi des liens vers d'autres associations comme le Réseau pour la justice fiscale, le réseau de lutte contre la pauvreté. On vous invite vraiment à vous informer et à agir au niveau individuel, au niveau collectif. Voilà, on reviendra probablement sur ces thématiques parce qu'elles sont complexes et qu'elles évoluent de jour en jour au rythme de l'actualité. Mais voilà, d'ores et déjà, grand merci et à très bientôt sur RCF.